11h02 minutes dans le Point de Max à Boulevard 102.1 et on va passer très rapidement à l'open mic aujourd'hui parce que dans les prochaines minutes, Audrey Pinchot va nous quitter en direction du McDo sur le Bourgneuf à l'ancien Krispy Kreme.
Oui.
C'est le grand McDo aujourd'hui puis tu vas aller cuisiner.
Oui, c'est mon rendez-vous annuel pour le grand McDo où je redeviens une McCopine.
Ben oui.
j'ai hâte de vous retrouver. Écoutez, aujourd'hui, tout ce que vous commandez, il y a une partie de l'argent qui s'en va directement pour le manoir Ronald McDonald pour les familles d'enfants malades. Fait que je pense que c'est pas... vous vous faites pas prier d'aller commander une frite là, pour aider un peu, mettons, tout ce qui touche justement la maladie puis les familles qui en sont atteintes. Fait que non, ça va être un beau midi.
Pour une bonne cause, fait qu'on ira te voir au nouveau McDo sur le Bourgneuf. Audrey, on connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui accumule beaucoup. Tu sais, le genre de « au cas », mais il y a des gens pour qui ça devient...
Maladif.
Puis très grave. Tu sais, il y a une nuance entre le « ouais, j'accumule pas mal » et ce dont on va parler aujourd'hui.
Qui est le trouble d'accumulation compulsive. Je ne sais pas si vous savez, mais le trouble d'accumulation compulsive, ça touche entre 2 et 6 % de la population. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même énorme. Moi, j'ai connu une personne indirectement qui avait ce trouble-là. Je suis rentrée dans la maison de la mère d'une de mes amies plus jeunes. Puis littéralement, on avait un corridor à travers des murs de boîtes pour être capable de se rendre, par exemple, à la toilette, même pas capable de se rendre à la cuisine. C'était épouvantable. Puis tu sais, moi, je me disais tout bonnement, plus jeune, ah, ben, dois-tu le bord de déménager? Puis en vieillissant, ma chum a fini par m'avouer que sa mère avait ce trouble-là. Mmh. Et donc, c'est la semaine de sensibilisation pour le trouble d'accumulation compulsive qui a lieu du 11 au 15 mai en réalité. Puis on s'est dit, pourquoi pas l'aborder? Parce que ça a quelque chose de spécial. On a deux personnes à qui on va jaser ce matin. J'ai envie qu'on ait rejoint la première en premier, qui est Thérèse Bellil, qui est une personne qui vit avec un trouble d'accumulation compulsive. Elle, c'est depuis l'adolescence, de ce que je comprends. Elle a pris des démarches pour être consciente de tout ça, s'aider. Mais on dirait que j'ai plein de questions. Puis je veux qu'on prenne un 5 minutes avec elle avant d'aller parler de tout ce qui peut toucher l'aide pour ces personnes-là. Thérèse, bon matin.
Oui, bonjour.
Bonjour. Merci de prendre le temps de jaser avec nous. Premièrement, j'ai envie de vous demander comment on en vient à développer un trouble d'accumulation compulsive parce que il y a beaucoup de gens qui diraient, ben là, voyons, gérez-vous.
Si c'était si facile, ça serait déjà fait.
j'en doute pas. Fait comment on en vient à développer ça?
Ce que j'ai compris de mes lectures et de ma propre expérience, c'est que c'est des traumatismes d'enfance.
Okay.
Et des traumatismes, ça semble un bien gros mot. Là, on n'est quand même pas en Ukraine ou au Liban là, avec les toits qui nous tombent sur la tête. Mais c'est comment on est façonné par ce qui nous arrive.
Mm.
Et même à l'intérieur d'une même famille, tout le monde ne va pas réagir de la même façon aux mêmes événements.
Mm.
Alors, il y a une question de tempérament. Mais ça arrive souvent aussi que ça se voit plusieurs dans une même famille. Chez nous... il n'y avait que mon père qui n'avait pas de troubles d'accumulation. Les autres, on en avait tous à des degrés différents, des choses différentes, mais c'est des traumatismes. Il faut voir les gens qui ont cette problématique-là comme des survivants, qui ont mis en place quelque chose pour les garder fonctionnels.
Dans votre cas, comment ça s'est manifesté, ce trouble-là?
À quel âge?
On peut commencer du départ, de comment ça a commencé puis comment ça a évolué.
Bien, ça a été sournois, hein, parce que ça a commencé à l'adolescence. Mmh. Alors, j'avais sur ma porte une affiche qui disait « Entrez à vos risques, un adolescent demeure ici. Hein, »
okay.
Parce que l'adolescence étant la phase où on se rebelle contre l'autorité parentale, bien, les normes qui nous sont imposées sont souvent remises en question. Et de ce côté-là, on m'a laissé faire. C'était mon espace, parce que tant que je faisais pas ça dans la cuisine, dans le salon et partout ailleurs, dans mon espace, on a accepté que je gère ça différemment.
Mm-hmm.
Et puis, c'est resté comme ça. Et puis, avec les survivances de viol et les épisodes de dépression, j'en suis arrivée à voir le désordre comme une façon de me protéger.
Mm. OK, vous avez vécu des choses vraiment difficiles, vous.
Ah oui. Oui, c'est un parcours que je ne souhaite pas à personne d'autre.
Qu'est-ce que vous. Qu'est-ce que vous accumulez?
Surtout des livres de recettes. Mais il y a beaucoup de papier, la gestion de papier. J'étais bibliothécaire, alors les livres, le papier, je bricole. Alors il y a de la laine, il y a du papier, des étampes, toutes sortes de choses.
Est-ce qu'on prend conscience à un moment donné, Thérèse, que c'est pas normal, je vais dire, que là peut-être que justement on parle plus de collection, mais vraiment d'accumulation. Là.
Écoutez, dans le regard de la personne qui est aux prises avec cette problématique-là, vous leur demandez s'ils souffrent de TAC, puis ils vont vous dire non. Si vous leur demandez, est-ce que je peux m'asseoir chez toi sans bouger quelque chose avant, ils vont vous le dire franchement.
Okay.
Non, il faut que je change des choses, il faut que j'ôte les livres, il faut que j'ôte les vêtements, il faut que j'ôte... T'sais? Alors, à ce moment-là, c'est une question de perception. Hein? La beauté est dans le regard de celui qui regarde, qui observe. Alors... finalement, pour nous autres, ça devient normal.
OK. Comment vous vous en êtes rendu compte, vous?
Les pressions familiales, quand les gens venaient, ils ramassaient toutes les choses qui étaient sur ma table de cuisine puis ils mettaient ça dans le salon. Le fait qu'il fallait souvent que pour une brassée de lavage, j'ôte ce qu'il y avait sur la laveuse. Même chose pour la cuisine. Fallait que ça se... une brassée de vaisselle avant d'être capable de prendre mes chaudrons puis d'en faire quelque chose d'autre. Ça se ressent un peu partout.
Puis à ce moment-là, est-ce qu'on demande de l'aide? Comment on s'en sort?
Ça dépend de toutes sortes de choses. Dans mon cas, j'ai demandé de l'aide parce qu'en quelque part, je me sentais dépassée. J'arrivais pas à savoir par quel bout le prendre, puis à chaque fois que je faisais quelque chose, ça durait pas longtemps, puis ça se rembourbait de nouveau. Et puis, finalement, ben c'est ça, les gens autour de moi, c'est pas nécessairement les mêmes choses qui leur ont fait ouvrir les yeux. Moi, de mon côté, il y a beaucoup de pression de la part des propriétaires qui ont contribué à me faire sentir que c'était moi qui étais tout croche. Et mon premier réflexe, c'était « Regarde... répète après moi de quoi je me mêle. Chez nous, je paye le loyer.
Mais souvent, c'est ça. Hein? C'est souvent ce qu'on entend, que c'est les propriétaires qui finissent par paniquer, puis c'est de là que ça part. Est-ce qu'on guérit de ça, Thérèse Bellil? Est-ce qu'il y a un moment où on est capable de passer à autre chose, de régler certains traumatismes d'enfance? Vous en avez vécu beaucoup. Vous nous avez nommé des choses un peu plus tôt. Est-ce qu'on peut réellement guérir de ça ou c'est un combat perpétuel?
Moi, j'ai fini par le regarder comme un diabète. Quelque chose qu'on gère, qu'on arrive à réguler, puis que quand il arrive une phase émotionnelle intense, ça peut nous faire perdre l'équilibre. Dans mes lectures, c'était pas optimiste. La plupart des gens qui étaient assistés, bien, de la minute que l'assistance n'était plus là, ils retournaient dans leur ancienne façon de fonctionner. Parce que je pense que c'est une façon dont le cerveau s'est recircuité. Et recircuiter le cerveau, c'est pas facile à faire si on n'est pas vraiment déterminé. Mais, tu sais, une coqueluche, là, de 1 à 10, tu peux avoir juste la fièvre, puis tu peux avoir 10, tous les symptômes. Puis tu as quand même la coqueluche. C'est que, pour l'accumulation, c'est un peu la même chose. Moi, j'ai côtoyé des gens, il y en a une en particulier, c'est les vêtements de ses enfants. Puis elle les gardait au cas où elle en serait en production pour un troisième. Puis finalement, à travers la démarche qu'on a fait ensemble, on était vite autour de la table, là, elle semble avoir réglé son problème. Alors, les vêtements d'enfants sont sortis, sont allés dans une friperie pour que ça serve à d'autres. Et puis, moi, je ne l'ai pas revue, cette personne-là, en dehors du cadre de nos rencontres hebdomadaires pendant 13 semaines. Mais en autant que je sache, elle n'est pas retombée parce que les enfants, ils sont grandis.
Puis avez-vous encore du soutien?
Encore.
Est-ce que vous avez encore du soutien pour être capable de vivre avec ce trouble-là, oui?
Oui. Parce que j'ai persévéré, puis j'ai demandé à plusieurs organismes communautaires qui sont là pour faciliter la vie des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Alors, il y en avait qui n'étaient pas particulièrement préparés pour le TAC, mais j'ai reçu de l'aide quand même qui était extrêmement précieuse et qui a contribué à changer mon regard. Parce que moi, au début, c'est ça, le propriétaire, c'était lui qui avait des problèmes, pas moi.
Oui, non, je comprends
totalement. Mais à un moment donné, j'ai comme, ouais, c'est vrai que c'est pas évident, là. Faut être avec le cercle du soleil pour rentrer chez nous.
Oui, oui, oui. Madame Thérèse Bellil, merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin. Je trouve ça intéressant. Je voulais vraiment qu'on ait la vision de quelqu'un qui l'a vécu et vit encore avec ça. Puis vous avez mentionné l'aide que vous êtes allée chercher. On a aussi avec nous en studio en ce moment Danielle Pearson, qui est directrice générale de l'organisme La Brigade d'entraide à Québec, un organisme qui intervient directement auprès des personnes qui ont un trouble d'accumulation compulsive. Danielle, bon matin. Vous pensez quoi de l'histoire de Thérèse?
Je trouve ça inspirant, l'histoire de Thérèse, surtout que c'est une problématique dont les gens ont peu ou pas envie de s'exposer puis de parler. Thérèse, elle a nommé les enjeux, entre autres, reliés aux propriétaires, puis reliés aussi au regard des autres dans la société. Fait que moi, Thérèse, elle a toute mon admiration d'être capable, et elle le fait avec beaucoup de brio. Bravo, Thérèse!
C'est dur de pas juger, j'ai l'impression, ce trouble-là au premier regard. J'ai le sentiment que c'était dur à comprendre, même pour certaines personnes.
Mais ce qu'on se dit, c'est pas un problème, c'est que
voyons, gère-toi, ouais, ramasse-toi comme tout le monde. Faut tout qu'on fasse du ménage dans la vie, faut tout qu'on range nos affaires.
C'est, plus que
qu'on...
Ça.
C'est ça, on a de la misère à le voir comme un trouble en soi. Hein?
Bien, c'est pas normal parce que c'est un trouble duquel on parle peu. Donc, la semaine de sensibilisation aux troubles d'amassement compulsif se veut justement pour parler, pour sensibiliser la population, parce que de 2 à 6 % de la population qui est atteinte de ce trouble-là, c'est quand même beaucoup, puis c'est la pointe de l'iceberg. Fait que, comme on a entendu Thérèse exposer, les gens ont honte, ont peu de reconnaissance de la problématique, puis si c'était si simple de gérer, bien, je serais pas ici ce matin pour vous en parler.
Mais quand est-ce qu'on peut dire qu'on a un trouble? Parce qu'on dirait que je trouve ça difficile. Tu sais, des fois, on parle de certains troubles de santé mentale ou de certains problèmes, puis il y a des symptômes précis à surveiller. Mais dans ce cas-là, quand est-ce qu'on est capable d'identifier que peut-être on est dans le TAC?
En fait, c'est quand on a de la difficulté à se départir d'objets et que les acquisitions versus désencombrer sont un enjeu. Donc, si je rentre des choses, mais que je suis capable de gérer mes acquisitions puis de sortir des choses, ça va. Mais c'est quand c'est l'inverse. Et quand on désencombre, Thérèse l'a bien nommé, il faut faire attention pour ne pas créer d'autres traumatismes. Parce que désencombrer, c'est pas la seule solution. Il y a d'autres solutions pour en arriver à ce que les personnes désencombrent, puis après, il faut gérer les acquisitions.
Y a-t-il un genre de spectre, j'ai envie de dire, où ben, tu peux avoir ce trouble-là, mais de façon plus légère, où ça devient jamais un grand problème dans ta vie, mais que justement, tu sais, les gens autour de toi vont peut-être remarquer de, ouais, ça, c'est quelqu'un qui a de la misère à se débarrasser de ses affaires.
Bien, j'ai l'impression que ça dépend beaucoup du vécu. Tu sais, la vie, on sait tous, là, c'est pas un long fleuve tranquille, là. Donc, selon les épreuves qu'on peut vivre, il y a des gens qui vont ressentir plus de facilité à traverser ces épreuves-là, puis d'autres pour lesquels, Thérèse l'a bien nommé, là, ça devient comme un rempart, puis une façon de survivre puis de se protéger. Puis c'est sûr qu'il y a de l'anxiété aussi qui est associée au trouble. Donc, plus les gens ressentent d'anxiété par rapport à la problématique, plus ça peut être difficile à passer au travers, je dirais, les autres difficultés qui apparaissent au fil de la vie.
Puis jusqu'où ça peut aller? Tu sais, des fois, dans les films, on va voir, mettons, des histoires de... On a retrouvé le chat mort en dessous d'une boîte. T'sais, c'est-tu des affaires qui sont réelles, ça? Ou...
Bien, en fait, ce qu'on voit dans les films ou à la télé, c'est sûr que c'est faire du bon divertissement, on va se le dire. Puis ça, je trouve que c'est comme anecdotique, mais c'est vrai qu'on peut rencontrer dans nos pratiques des choses qui vont un peu dans l'extrême, mais c'est plutôt rare. Puis c'est pour ça que le TAC, la semaine de sensibilisation au TAC existe, c'est pour démystifier, en parler, sensibiliser la population, puis sortir un peu de ce qu'on voit à TV, là, puis qu'on voit plus les gens qui sont dans des zones de souffrance puis dans des zones où ils ont besoin de soutien puis d'accompagnement puis d'aide.
Est-ce que l'aide doit être graduelle? Parce que j'imagine que tu peux pas rentrer chez quelqu'un puis vider la place. Ça doit être paniquant là, pour quelqu'un.
J'ai vu au fil du temps qu'il y a des gens qui pensent que c'est la solution, puis dont les familles, on va se dire, les proches sont un peu dépassés par ces situations-là.
On va rentrer, on va tout ranger.
J'avais bien nommé tantôt hein, chez votre ami, mais ça, ça répond aux besoins des personnes qui le font, pas aux besoins des personnes qui le vivent. Mmh. Fait que moi, je peux bien décider que c'est ma solution, mais vite, ça va se réencombrer. Parce que c'est pas le besoin... C'est vraiment une problématique qu'il faut s'occuper sur du très, très, très long terme, puis le faire dans le rythme des personnes. À la brigade d'entraide, quand on fait ce type d'intervention-là, on le dit, là, on respecte le rythme des gens, on demande ce qu'on peut jeter... plutôt ce qu'on peut se départir, ce qu'on peut donner, ce qu'on peut recycler. Puis c'est important de parler de se départir parce que c'est vraiment comme ça qu'il faut le gérer.
Puis les gens finissent par être capables de s'en sortir avec votre aide, avec le temps.
En fait, on ne peut pas faire ça seul. C'est vraiment du travail qu'il faut qu'il se fasse de façon concertée. Il faut que plusieurs partenaires soient impliqués dans la situation si on veut que ça soit pérenne. Moi, je me fais accompagner par d'autres intervenants. Souvent, on peut avoir besoin aussi d'une psychothérapie ou d'une thérapie comportementale, cognitivo-comportementale. Puis je sais que si on adresse aussi les traumatismes, ça peut aider sur du long terme.
Puis vous, Danielle, à la brigade d'entraide à Québec, est-ce que vous observez que les cas augmentent en ce moment ou depuis quelques années ou c'est relativement stable?
C'est difficile pour moi de vous répondre à ça parce que j'ai pas mal toujours les deux pieds dedans. Fait que je sais pas si ça augmente, mais en tout cas, clairement que ça diminue pas. Puis ça diminuera pas non plus parce que plus la population vieillit, plus ça peut... des situations. Oui.
C'est chez
ça.
Les gens plus vieillissants, normalement?
Non, pas nécessairement. On les voit... Thérèse, elle, ça a commencé à l'adolescence. Mais moi, dans ma pratique, j'ai vu des adultes aînés pour qui les traumatismes pouvaient être un déclencheur. Mmh.
J'ai envie de vous demander, en terminant, parce que c'est la question, j'ai l'impression que beaucoup de propriétaires peuvent se poser. Tu sais, si tu as une personne dans ton logement qui souffre de ce trouble-là, est-ce que tu peux appeler pour ton locataire, par exemple, la brigade d'entraide? Est-ce qu'il y a moyen, avant de jeter du monde dehors, avant de tout virer à l'envers, y a-tu moyen d'essayer d'aider la personne qui est dans ton logement? Ou...
Bien, nous, c'est sûr qu'on ne peut pas prendre des références de manière directe, mais je dirais plutôt qu'il se dirige vers le CATAC. Le CATAC pourrait,
Le CATAC qui est?
Le collectif... Ouais. Le collectif d'action pour le trouble d'avancement compulsif, c'est eux qui ont organisé la semaine de sensibilisation aux troubles. Puis ce collectif-là peut le diriger vers des ressources plus directes qui vont l'accompagner puis qui vont lui donner des conseils puis qui vont l'aider à accompagner le locataire dans la situation.
Pour faire les choses comme il faut.
Oui, pour faire les choses dans le bon ordre, effectivement.
Danielle Pearson, directrice générale de l'organisme La Brigade d'entraide à Québec, qui intervient directement auprès des personnes qui ont un trouble d'accumulation compulsive. Merci beaucoup pour votre temps ce matin, super apprécié. En cette semaine, je le rappelle, de sensibilisation pour le trouble d'accumulation compulsive.
Merci à vous de faire cet espace-là en passant, parce que c'est pas sexy comme sujet, puis merci à vous de l'adresser de cette belle façon.
Oui, mais ça fait vraiment plaisir. J'ai envie de dire que l'open mic sert littéralement à ça, puis si vous avez des histoires au 88-971-1021 ou d'autres troubles ou des choses à ajouter, bien, vous n'hésitez vraiment pas.
Et d'ailleurs, merci aussi à Thérèse Bellil, qui est une personne qui vit avec un trouble d'accumulation compulsive, qui était au bout du fil avec nous là, en début d'entretien. Si vous l'avez manqué, vous pourrez récupérer ça au blvd.fm et avec l'application mobile Boulevard 102.1. Au retour de la pause, les nouvelles. Pascal Cévé va venir faire son tour également. Les sports, on va mettre la table pour le match du Canadien de ce soir. Audrey Pinchot, on t'écoute dès 14h dans le retour, mais surtout, on va te voir dans les prochaine minute.
M'en va là.
Au McDo, qui est le nouveau McDo sur le boulevard Le Bourgneuf, pour vous situer là, à la place de l'ancien Krispy Kreme.
Fait que en face des galeries.
On vient de voir, on se garde pour la bonne cause, c'est la journée du grand McDo. Je parlais de mettre la table pour le Canadien ce soir. Ben la meilleure façon de le faire, Audrey.
Tu mettras pas ta toune, Max.
Non, on va en pause. Peut-être qu'avant la pause. Il y a quelque chose.
Et les gens sont tannés, Max.
Les gens sont tannés, mais l'aiment
beaucoup. Non, les gens sont vraiment tannés, je te le dis.
L'Open Mic avec Audrey Pinchot, présenté par Ascenseur Universel.